Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'il fait Eric? Il peut laisser le service ménage.
Ben, je ramasse les rameaux et je les ramasse à la pelle.
Ça me fait penser à ce poème de Jacques Prévert, dans le siècle passé, chanté par Yves Montand. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et le texte de cette chanson qui a bien vieilli, je l'ai réécouté sur YouTube, c'est presque inaudible, mais les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi, et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. C'est une histoire d'amour avec plein de regrets, avec plein de déceptions, avec ce vent du nord qui vient sur cette histoire. Et pour les rameaux, ramassent à la pelle aussi, comme les feuilles mortes de Jacques Prévert et d'Yves Montand. Ça signale, ces rameaux, ça signale cette entrée de Jésus à Jérusalem, les rameaux d'olivier ou les rameaux de mimosa. Et ça vient comme une parabole aussi, comme la peinture de James Ensor, l'entrée de Jésus à Bruxelles, qu'il a peint, c'est très coloré, il y a de la joie, il y a des couleurs, il y a du mouvement, hein, comme disait Yvonne. Il y a peut-être même, vous la voyez, la baraque à frites, là, en bas à droite. À Jérusalem, on coupe les branches des arbres et on les place sous les sabots de l'âne. Certains même étendent leurs vêtements, ils y mettent de l'enthousiasme, c'est sûr. Mais quelques jours plus tard, c'est une autre histoire et vous la connaissez. Il y a des rameaux que l'on ramasse à la pelle, des regrets, des déceptions. Et surtout, un malentendu, un regrettable malentendu. Dans cette histoire d'amour entre le Fils de l'homme et les gens de la ville de Jérusalem et de toutes les villes et de tous les villages, de tous les villages de France et de Navarre et du monde, il y a comme un malentendu. Et ce malentendu, c'est un malentendu qui dure. Alors que les disciples et Jésus sont encore en Galilée, plusieurs fois Jésus va parler de sa mort prochaine, de sa mission terrible. Et il y a chez les disciples, plusieurs fois, hein, comme un blocage, vraiment, un blocage avec Pierre, l'impulsif, qui lui fait des reproches, parce que Jésus parle de sa mort prochaine. C'est pas bon pour ton image, ça. Laisse tomber. Et puis il y a Jacques et Jean aussi, les fils de Zébédée, les fils du tonnerre. Et puis il y a un autre épisode très révélateur et qui concerne tous les disciples. Jésus vient de multiplier les pains, il vient de marcher sur l'eau, il vient de guérir un aveugle né, il vient d'être transfiguré, mais Jésus veut parler de sa mission et de sa mort, et il le dit, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, et ils le feront mourir, mais 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un verset plus loin, mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. On dit... À Bruxelles, ils étaient durs de comprenure. Ils ne comprennent pas. Avec le verbe en grec, allez, encore un petit peu de grec, le grec du Nouveau Testament, agnoéo, qu'a donné agnostique. Ils étaient sans compréhension, sans connaissance. Et j'aime bien la traduction en anglais, d'autres langues, misunderstanding. En français, on traduit par malentendu, comme si on a mal entendu. Mais on a mal compris. Une question de compréhension, et les disciples ne comprennent pas quand Jésus parle de sa mort. Il y a un énorme malentendu. Incroyable de voir que la mort de leur rabbi préféré, qu'ils suivent, n'entre pas dans leur schéma, dans leurs attentes. Ils ont bien entendu, mais ils ne comprennent pas. Et d'ailleurs, leur réaction montre, puisqu'il parle juste après, de ce qui sera le plus grand. Le royaume, c'est moi le plus grand. Non, c'est toi. Non, c'est moi le plus grand. Il y a un problème de malentendu. Et ici, dans notre histoire de rentrée de Jésus à Jérusalem, le dimanche des rameaux, parce qu'on a cueilli, on a coupé des rameaux aux branches. Moi, j'ai défasté la croix des gardes avec mes rameaux de mimosa. Mais bon, bref, se concentre sur deux détails de l'histoire. L'annon, d'une part, et les vêtements de l'autre. L'annon. L'annon est quelque chose que Jésus a voulu, qu'il a préparé. Et Yvonne nous l'a lu tout à l'heure. Alors qu'il n'était encore qu'en banlieue de Jérusalem, il a demandé à quelques disciples d'aller à l'avant, en avant-garde, et de demander de préparer les choses pour l'entrée, et tout se passa comme Jésus leur avait dit. Le texte met l'accent là-dessus. Ils trouvèrent l'annon, et quand les gens demandèrent pourquoi ils prenaient l'annon, ils ont répondu comme Jésus leur avait dit qu'ils répondraient. Les gens, en effet, les laissent partir avec l'annon. Jésus a voulu cet annon et il entre à Jérusalem sur cet animal. Et ce choix est volontaire de la part de Jésus qui veut rappeler certainement le prophète Zacharie qui dit quelques siècles plus tôt, 4 siècles quand même, au moins, « Oh oui, danse de toutes tes forces, ville de Sion. Oui, pousse des cris de joie, Jérusalem. Regarde, ton roi vient vers toi, il est juste, victorieux et humble. » Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de guerre. Et à Jérusalem, il supprimera les chevaux. Il cassera les arcs de combat. Il établira la paix parmi les peuples. Jésus a préparé ce geste pour poser un signe fort, pour dire qu'il est le Messie, qui vient à Jérusalem pour briser l'arc de la guerre, pour établir la paix. Il vient humblement, sans chameau, sans caravane, sans trésor dans les coffres, sans armes dans les bagages, pas d'escorte, juste une bande de disciples assez misérables, galiléens en plus, et il vient sur un ânon. C'est lui le Messie. Et puis, il y a un deuxième élément, les vêtements. Les vêtements que l'on jette sur le chemin que prend Jésus, et ce geste accompli par la foule est tout à fait spontané, et on pourrait s'en réjouir, c'est sympa, ces vêtements, je sais pas d'où ça vient, mais pourquoi on met sa veste sur les vêtements, mais en même temps, ce geste vient tout à fait à l'opposé du signe de l'annon que voulait Jésus. Il faut savoir que la seule référence que nous avons d'un tel comportement, des gens qui mettent leurs vêtements sous le cheval ou l'âne, remonte à 800 ans avant, au 9e siècle avant Jésus-Christ, dans le deuxième livre de Rois, en rapport avec Jéhu, un roi d'Israël. À l'époque, au 9e siècle, régnait sur Israël un couple machiavélique et sanguinaire qui s'appelait Achab et Jézabel, et leur fils Joram, roi d'Israël. Alors, comme la coupe est pleine de violence en Israël, la coupe de méchanceté de cette famille Adams avant l'heure, Élisée, le prophète, choisit un roi pour nous en débarrasser. Et ce roi s'appelle Jéhu. Le serviteur d'Élisée lui donne l'onction pour sa mission, et les proches de Jéhu vont avoir un geste étonnant. Ils vont jeter leurs vêtements sous les pieds de Jéhu. Alors, chacun d'eux se hâte de prendre son vêtement et de placer sous Jéhu, en haut des marches. Ils sonnèrent de la trompe et dirent « Jésus, Jéhu est roi. » Et puis, Jéhu va faire quelque chose qu'il aime faire. Il va nettoyer. Il va prendre son char de combat et son arc pour aller éradiquer la maison d'Akab. Il va aller de victoire en victoire. Jéhu monta sur son char et partit pour Jisréel, c'est bien. Mais Jéhu saisit son arc et frappa Joram, le fils de Jézabel, entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa sur son char. C'est l'œuvre de Jéhu. Le nettoyage se poursuit, je vous lis pas la suite, la disparition de Jézabel, par exemple, ou la fin de la famille d'Akab, je n'entre pas dans les détails, c'est pour préserver la sensibilité de certains auditeurs ce matin. Mais Jéhu, c'est un peu Jean Reno dans Nikita. Victor, il s'appelle, le nettoyeur. Il nettoie. Ils sont terriblement violents et terriblement efficaces. Il est violent, Jéhu. Il est efficace et victorieux. Et comme pour Jéhu, je ne sais pas si c'est la suivante, ouais, on peut laisser. Et comme pour Jéhu, la foule met les vêtements sous les pieds de Jésus alors qu'il entre à Jérusalem. Est-ce que les gens pensent que Jésus va faire le grand nettoyage? Est-ce qu'ils pensent que Jésus va liquider tous les étrangers romains? Qu'il va voler de victoire en victoire contre les occupants? Eh bien oui, la foule pense cela. Ce sera des victoires violentes, des victoires où on boute l'étranger hors d'Israël. Des textes écrits entre les deux testaments, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, on appelle ça les écrits intertestamentaires, qui ne font pas partie de la Bible, mais le disent assez clairement, le psaume de Salomon, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est de cette période intertestamentaire. Regarde le Seigneur et suscite-leur un roi, fils de David, et ceins-le de force pour qu'il brise les princes injustes, qu'il purifie Jérusalem des nations qui la foulent et la ruinent. On attend un Messie comme ça. Et donc, c'est une attente partagée par un grand nombre de personnes, et il le montre en réalisant ce geste des amis de Jéhu. Mais ce geste est complètement à l'opposé du signe de l'annon posé par Jésus, voulu par Jésus. Les deux signes, celui de l'annon et celui des vêtements, sont en totale contradiction. Nous sommes en plein malentendu dans ce dimanche des rameaux. Un regrettable malentendu. Car qu'est-ce qu'on attend exactement? Un Messie type Jéhu ou un autre? Et ce malentendu n'est pas un petit quiproquo, on ne s'est pas compris, c'est pas grave. Hein. Non, c'est un malentendu regrettable, comme je l'ai déjà dit, on peut même dire qu'il s'agit d'un malentendu qui tue. Un malentendu d'abord qui tue Jésus. La foule qui met ses vêtements sous les sabots de l'annon crie « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur !» Hosanna, comme l'a dit Yvonne, je ne sais plus ce qu'elle a dit, mais qui veut dire « Bravo !» aussi, « Hourra !»« Bravo !»« Bravo !» Oh, bravo, pouf. Et les palmes. Mais cette foule, 4 ou 5 jours plus tard, va crier « Crucifie-le !» Quand Pilate, l'homme qui se lave les mains très souvent, va laisser faire cette foule et va mener tout droit vers la crucifixion de Jésus. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est la même foule qui dit « Hosanna » et puis après « Crucifie-le », parce que il y a un écart terrible entre ces deux interjections. Et on a du mal à imaginer que ce sont les mêmes personnes qui prononcent ces paroles à quelques jours d'intervalle. Pas possible, se dit-on. Pas moi, en tout cas. Moi, je ne l'aurais pas fait. N'est-ce pas? Avec les mains, comme ça. Je peux pas faire le grand écart. Mais ça pourrait être quand même la même foule, vous savez. Parce que les foules sont habituées au grand écart. Il est tout à fait possible dans l'histoire des mouvements de foule que l'on dise « Hosanna » le dimanche et que l'on crie « à mort » le vendredi. Tout à fait possible que la foule ait retourné la veste qu'elle avait déposée sous les pieds de Jésus et qu'elle l'ait fait d'autant plus facilement qu'il y avait à l'origine ou à l'entrée un énorme et un regrettable malentendu. Elle s'attendait à une victoire à la Jéhu, elle voit une arrestation à la Jésus, une condamnation, un échec lamentable. Et là, il n'y a plus eu de malentendu, mais une énorme déception. La cause de Jésus était entendue. Il allait mourir à cause d'un malentendu. Il n'y a rien de plus versatile qu'une foule déçue dans ses attentes. On le voit tous les jours dans les actualités. On change d'avis comme de vêtements quand on est déçu des événements. Les foules déçues sont féroces. Quel le malentendu et nous, et nous, et nous. Et en ce dimanche particulier, le dimanche des rameaux, nous pourrions nous poser une question singulière. Comment est-ce que j'accueille Jésus aujourd'hui ? Nous t'accueillons, nous l'avons chanté. Mais on peut se demander s'il n'y a pas parfois des malentendus dans mon attente, ou du moins une certaine ambiguïté, même si je chante Hosanna, qui veut dire « Bravo, je l'ai dit avant ». Et c'est une parole juste, hein, vraie, « Hosanna ». Mais la question est de savoir à qui je dis « Hosanna ». Et c'est une vraie question. Jésus pose cette question à ses disciples dans Matthieu 16, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est la question de la deuxième session du parcours Alpha. Qui est Jésus ?« Et vous, qui dites-vous que je suis ?» À mon avis, c'est la question essentielle et existentielle pour tout un chacun, et pour toi ce matin aussi. « Qui dis-tu que je suis ?» Qu'est-il pour moi? Est-il ce que je voudrais qu'il soit? Quelqu'un avec des super pouvoirs à la Marvel? Et qui, Marvel, Spider-Man, Hulk, Captain America? Non, pas lui. Mais Jésus, voilà comment j'ai sauvé le monde. Ou je pense à Thor avec son marteau qui écrase tous mes ennemis, qui me délivre, qui me guérit de tous mes problèmes, qui me donne du succès dans mes entreprises et dans celles de ceux qui m'entourent, qui va me permettre d'être victorieux dans la vie. Est-ce que je dis bravo Hosanna à ce Jésus-là? Et ce ne sont pas des attentes tout à fait mauvaises. On peut même trouver des appuis bibliques pour ces attentes et on retrouve même la même ambiguïté que celle de la foule massée à Jérusalem pour l'arrivée de Jésus. On retrouve peut-être chez nous ce même malentendu, un malentendu qui tue, un malentendu qui va tuer non seulement Jésus, mais qui va tuer la foi. Elle ne survivra pas au week-end de Pâques. Car si nous croyons en un Messie victorieux, ça nous renvoie à un Dieu que nous retrouvons dans les sommets et les victoires de notre histoire. Ça nous renvoie à un Dieu qui nous fait gagner, qui nous comble, qui comble nos désirs, qui nous accorde la prospérité. Ce Dieu est séduisant et nous comprenons qu'il attire les foules. Et ce Dieu nous parle tant que nous sommes du côté des vainqueurs, tant que les succès sont dominants dans notre histoire. Mais que dit ce Dieu-là? Que dit ce Jésus-là? Quand nous rencontrons l'échec, quand nous rencontrons la prière non exaucée, quand nous rencontrons la maladie, la persécution ou l'ostracisme, comme on dit, la pandémie, quand nous rencontrons la guerre, eh bien ce Dieu-là, à la GU, ne nous dit pas grand-chose. La foi qui repose sur cette lecture dure aussi longtemps que durent nos succès. Et pour la foule de Jérusalem, elle n'a pas dépassé quelques jours. À Pâques, le malentendu avait non seulement tué Jésus, mais aussi la foi de cette foule. De l'autre côté, il y a ce Jésus humble qui rentre dans Jérusalem, assis sur cet anon qu'il a choisi et préparé comme un symbole de son humilité. Jésus ne vient ni à Jérusalem, ni dans nos vies pour voler de victoire en victoire, mais pour vivre un échec. Celui de la mort sur la croix, une abomination pour tout le monde, pour les Juifs, pour les païens, pour les Romains, pour les Grecs, une folie. Cette mort sur la croix. Jésus, sur son anon, c'est le rejet de la foule, c'est la faiblesse de la croix, un échec cuisant qu'il vit dans sa chair. Et dans cet échec, Jésus vient nous rejoindre dans nos échecs. Et dans notre faiblesse et dans notre humanité fragile. Le dimanche des rameaux, Jésus, assis sur un ânon, vient sur notre terrain. À notre niveau, le terrain de la fragilité. Et ce niveau-là, qui est le nôtre, au niveau d'en bas, Jésus nous dit quelque chose. Il nous dit qu'il partage nos souffrances, qu'il les vit au premier rang, qu'il les prend sur lui, qu'il les vit avec nous et qu'il les prend sur lui. Et pour lui, je le prends pour moi, me dit Jésus. Et la foi qui vient d'en bas, qui vient de ce Jésus monté sur un ânon, est une foi beaucoup plus solide que celle de la foule. Elle va résister à toutes les tornades et les tempêtes de la vie. Elle n'est pas basée sur un malentendu qui tue la foi, elle est basée sur cette vérité de la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu nous rejoindre là où nous étions. Cette foi-là, elle va rester. Elle va même dépasser le week-end de Pâques et elle le fera même dans la joie de la résurrection. Qui allons-nous accueillir ce matin ? Le Jésus victorieux sur son char d'assaut ou le Jésus humble qui vient sur son ânon ? À qui allons-nous crier « Hosanna, bravo, gloire à toi, viens dans ma vie ». Et si nous profitions de ce dimanche des rameaux pour lever tout malentendu, c'est toi, Jésus, dans la faiblesse évidente à la croix du Vendredi Saint, mais qui devient une puissance de vie extraordinaire le matin de Pâques, c'est toi, Jésus, que nous voulons accueillir. Nous t'accueillons, toi, le roi serviteur, toi, la lumière du monde qui est venue humblement sur cette terre pour se donner par amour pour les hommes et les femmes de cette bonne ville de Cannes et environ, jusque dans le Var, et de toutes les autres villes et villages du monde. C'est à toi seul, c'est à toi et à toi seul que nous voulons dire Hosanna. Amen.
Amen.